Que Dieu vous bénisse. Vous allez entendre le message Le temps de l'union, prêché le 18 août 1963 par notre précieux frère et prophète William Marion Brennan. Bonsoir, c'est un privilège d'être ici ce soir et de me tenir à cet endroit. Ce matin, en venant sur la route, j'étais allé prier, m'attendre au Seigneur. Et en venant sur la route, j'ai mis la radio pour écouter un prédicateur radiophonique, Frère Smith, le frère de couleur. L'avez-vous écouté ce matin? Quelqu'un d'entre vous? De l'Ohio, je crois. Quelqu'un m'avait parlé de ses prédications et m'avait dit, vous devriez mettre la radio pour l'écouter comme ça. Je suis justement tombé sur lui ce matin. Et il disait clairement que le péché abonde dans le monde aujourd'hui. Et j'ai pris une autre station de radio un peu plus loin. Et là, j'en ai entendu un autre. Quand je suis arrivé ici, j'étais presque sur le point de... Je me suis demandé s'il ne serait pas trop tard pour venir à l'église ce matin, quand je suis arrivé. Donc, c'est vraiment un grand privilège pour nous d'être ici ce soir et de servir au service du Seigneur. Et je parlais de Frère Neville et du message l'autre jour à cette petite dame, notre sœur qui vient de nous quitter. C'était, nous savons tous qui c'était, sœur Weaver. Et je pensais à un homme ici qui va se faire baptiser ce soir. Elle, je l'ai baptisée dans ce baptistère il a fallu l'amener jusqu'ici en fauteuil roulant. Elle se mourait du cancer et il ne lui restait que cette nuit-là à vivre. Le médecin l'avait condamnée, elle allait mourir le lendemain matin. Je suis allé chez elle et j'ai essayé de lui parler de la guérison divine. Elle ne faisait que répéter, « Je ne suis pas digne que vous veniez sous mon toit. » Elle a dit, « Je ne suis pas digne qu'un ministre soit dans ma maison. » Elle a dit, « Je suis une pécheresse. » Mais elle a dit, « Monsieur, je ne veux pas mourir comme ça. » Et donc, c'est grâce à Weber, pas loin d'ici, qui m'avait amené là-bas. Je venais d'arriver épuisé par les réunions. Et là, quand j'ai prié pour elle et que je lui ai lu l'Écriture, elle a été sauvée. Ensuite, elle avait de la peine à soulever la main, mais elle a voulu serrer la main à tout le monde. Quelque chose lui était arrivé. Et pendant qu'il se serrait la main, j'ai eu une vision où je l'ai vu se diriger vers un poulailler et en revenir. J'ai dit, bien, maintenant, tout ira bien. C'est arrivé il y a 18 ans. Et depuis, elle a toujours eu une longueur d'avance sur le cancer. Si elle est morte, elle n'est pas du tout morte du cancer. Elle a eu une crise cardiaque. C'est ce qui l'a emporté. On l'a mise sous l'oxygène. Elle est morte d'une crise cardiaque. Et alors, je réfléchissais à la toute fin pendant que les gens sortaient et qu'ils chantaient « Alors, Jésus vint ». C'est exactement ce qui est arrivé. Il est venu, il lui a prêté vie pendant ses 18 ans, et je me suis dit, comme c'est approprié, cette femme n'était probablement pas consciente de ce qu'elle faisait là, mais bon, peut-être que si, et cependant, comme c'était approprié d'avoir cette partie-là, alors Jésus vint. Maintenant, c'est juste avant de commencer, j'espère ma grande série de réunions, je deviens très nerveux. Ce matin, j'étais super tendu, alors je suis allé prier. Je suis ici à la maison, la famille, je les ai conduits en Arizona pour que les enfants puissent reprendre l'école. Et je suis ici juste pour me détendre un peu, aller à la chasse avec Frère Wood et un groupe de frères d'ici, aller à la chasse cette semaine. Nous allons dans le Kentucky. Et je suis arrivé précisément le jour où Mme Weaver est décédée. Ça tombait bien que je sois ici pour pouvoir assister à Frère Neville lors de ses funérailles. Et j'essaie de ne pas trop en parler, vous savez, en présence de gens qui se plaignent. Parce que je pense que l'une des choses les plus horribles, c'est de voir un homme ou une femme qui se plaint constamment. J'ai toujours pensé, « Oh Dieu, garde-moi d'être comme ça. » Vous voyez, cela affaiblit continuellement la foi, vous savez. C'est ce que vous, je sais qu'en vieillissant, chacun d'entre vous, des choses et encore des choses vont nous arriver. Et je sais que ces petites choses vont continuer à s'accumuler en vieillissant. C'est inévitable. Mais je pense que l'une des choses les plus horribles, c'est que Satan couronne la vie de quelqu'un, un vieux grincheux ou une vieille grincheuse, vous voyez. J'espère ne pas en arriver là. J'espère pouvoir supporter ces choses, mais fardeau, et arriver à ce que je veux que ma vie soit couronnée de la gloire de Dieu, sa patience, sa bonté, sa paix, sa douceur, et qu'elle soit remplie du Saint-Esprit. Et l'une des principales choses dont j'ai toujours souffert au cours de ma vie, c'est la nervosité. C'est que quand je suis très épuisé, je deviens vraiment abattu. On a l'impression que personne ne se soucie de nous, vous savez, et on est complètement... Ça vous arrive aussi. Il se trouve que j'en ai vraiment une surdose, vous savez, et parfois ça devient vraiment grave, et j'ai du mal à... C'est la tension, c'est elle qui produit ça. Et alors, j'en arrive au point où, bien des fois, spécialement avec toutes ces visions, vous voyez, ça m'affecte. Je regarde une personne, je me dis, c'est une vision. Non, 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 pas du tout. Oui, n'est-ce pas ça, vous voyez? Et vous ne vous rendez pas compte du prix à payer pour ça. Et donc, on se pose des questions. Ensuite, on se met à réfléchir. Eh bien, tu es. Ensuite, on se retire dans un coin et on se dit, eh bien, maintenant, qu'est-ce que j'ai accompli? Mais voici, j'ai 50 ans et je n'ai rien encore fait pour le Seigneur. Et je vieillis et qu'est-ce que, oh là là. Alors, on attrape certains qu'on a l'habitude d'appeler le cafard. Certains d'entre vous, les frères, d'à peu près mon âge, vous pouvez souvenir de ce qu'on avait l'habitude d'appeler avoir le cafard. Papa parlait de ça et je me demandais ce qu'il voulait dire. Mais maintenant, je le sais vraiment ce qu'il voulait dire. Et donc, vous vous mettez à vous sentir comme ça, alors qu'il n'y a rien de vrai là-dedans. C'est seulement vous. Et vous le savez. Vous voyez? Vous le savez. Donc là, j'essayais de me calmer un peu et de me préparer pour la grande offensive qui, je l'espère, aura lieu prochainement. Passer alors par, je dois aller à New York très bientôt et je fais des réunions là-bas, une campagne, ensuite descendre à Shreveport et ensuite retourner à Phoenix, après quoi revenir par l'ouest, la frontière sud des États-Unis. Et puis on est maintenant en train de faire les préparatifs pour notre déplacement outre-mer, pour commencer là-bas dès que nous le pourrons, après le 1er de l'an, peut-être en mars ou en avril, quelque chose comme ça, à partir de Stockholm ou d'Oslo, faire le tour du monde si nous y arrivons lors de cette prochaine tournée. Et maintenant, je suis à la maison pour, en quelque sorte, me reposer un peu, me retrouver et récupérer. Et si le Seigneur le veut, je reviendrai du Kentucky pour être ici dimanche prochain. Et si ça va, que c'est agréable au Seigneur et que Frère Neville n'y voit pas d'inconvénient, eh bien, j'essaierai de prendre le service dimanche prochain, si le Seigneur le veut. Et s'il est aussi bien disposé que Frère Neville, je serai ici. Oui, monsieur, il est aussi bien disposé. S'il est aussi bien disposé pour ça que Frère Neville, j'espère qu'il l'est. C'est que, voyez, je sais que bientôt, si le Seigneur le veut, je vais être au loin de vous pendant un certain temps. Juste des petits messages, quand un petit quelque chose me vient à cœur, alors j'ai envie de vous l'exprimer, vous voyez, et nous pouvons fraterniser autour de ça. Maintenant, j'en ai un assez grand nombre, 5 ou 6 qui me sont venus ces quelques derniers jours. Je suis allé chasser l'écureuil ici dans les environs pendant 2 ou 3 jours. Je vais dans les bois et je prends un crayon et du papier, vous voyez. Alors quand il commence à faire du bien jour, je m'adosse à un arbre quelque part. Si je ne m'endors pas, je me mets à prier et là, le Seigneur me donne quelque chose. Je commence à prendre de petites notes là-dessus, vous voyez. Vous savez ce que je veux dire quand on se recueille. Alors, puis je rentre, je recopie tout ça sur un calepin et alors quand on fait un appel à moi, je fais vite chercher mon calepin, le parcours pour voir avec quoi je pourrais commencer, vous voyez, c'est ce qui vient d'arriver. Donc maintenant, j'aimerais, si le Seigneur le veut, parler seulement, j'essaie de faire décourter ces grands et longs messages, vous voyez, qui prennent des heures. Et le Seigneur m'a aidé à être assez court à Chicago le dernier soir là-bas, environ 30 minutes. Et quelqu'un est venu me dire, je ne pensais pas que tu pourrais y arriver, mais tu l'as fait. Donc, 30 minutes au lieu d'environ 2h30 ou 3h, vous savez. Alors, peut-être que ce soir, je pourrais me dépêcher, m'entraîner un peu à ça, ne pas vous retenir trop longtemps. Que Dieu vous bénisse. Où que j'aille, il n'y aura jamais un endroit comme ce tabernacle ici. C'est chez moi, mon doux chez moi. Aussi, toute ma sympathie va à la famille Weaver et ce précieux frère de couleur qui est décédé. J'ai prié avec lui un peu avant qu'il parte et c'était un brave homme. Il est maintenant à la maison avec Dieu et c'est terminé. Il faut partir d'une manière ou d'une autre, ça nous le savons tous. Alors que le Seigneur fasse reposer leur âme en paix et un jour nous nous attendons à nous retrouver dans un pays là-bas où il n'y a pas de maladie, pas de chagrin, pas de mort. Jusque-là, faisons tout ce que nous pouvons pour l'Évangile. À propos de tension, j'ai prié à ce sujet ce matin. Que feriez-vous si vous n'aviez pas de tension? Réfléchissez-y. La tension fait partie de la vie. Ça m'a un peu encouragé quand j'ai eu cette pensée. Si vous n'aviez pas de tension, vous seriez comme une poupée de chiffon. Vous n'auriez pas de sentiments, rien ne pourrait vous faire réagir. C'est comme un mari et sa femme. Peut-être si elle veut faire quelque chose et qu'il essaie de travailler ensemble, spécialement des chrétiens, et que l'autre veut, et alors quand vous vous réunissez pour vous découvrir que ce qu'elle a fait, elle découvre, vous voyez, en fait, la tension vous rapproche l'un de l'autre. Quelqu'un vous dit que, eh bien, il dit, pense un peu à ta petite femme qui a supporté beaucoup de tension quand tu n'étais pas très gentil, ou à ton mari qui a supporté la tension quand tu n'étais pas très gentil. Après, quand tout est pardonné, regardez quel sentiment tu éprouves pour lui. Oh là, vraiment, tu voyez, il faut que vous ayez des tensions, c'est tout. Réfléchissez un peu à propos de sentiments. Et si vous ne ressentiez rien, pas de douleur, rien, s'il n'y avait pas de douleur du tout, vous n'auriez absolument aucun sentiment, voyez. Et si vous ne ressentiez rien, alors il vous manquerait un de vos sens, voyez. Alors, voyez, tout est pour le mieux, finalement. Donc, ô Dieu, donne-nous simplement la grâce de tenir debout face à cela. C'est ça qu'il faut. Si nous nous tenons simplement debout, soutenus par cette grâce, que nous nous tenons là et disons, nous savons que quand cette vie-ci sera terminée, celle qui est magnifique est de l'autre côté, là où nous comptons aller. Et alors, nous nous rappelons que toutes ces choses, ce sont des tensions. Alors, certaines personnes essaient de présenter le christianisme en disant, vous êtes libéré des soucis, vous êtes... Non, pas du tout, vous êtes libéré de la tension. Oh non, vous ajoutez de la tension en devenant chrétien parce qu'avant, vous étiez un peu, je m'en foutais, insouciant, n'importe comment, là-bas, ce que vous faisiez, vous étiez égal. Mais quand vous devenez un chrétien, à tout instant, vous vous demandez, suis-je agréable à mon Seigneur? Si seulement je pouvais l'entendre me parler, cela vous met sous tension, vous met sous vos gardes. C'est ce qui fait que de vous ce que vous êtes. Alors, après tout, l'attention est une bénédiction. Ça dépend juste de la manière dont vous la regardez. Ça dépend juste de la manière dont vous la regardez. Vous voyez, si vous regardez simplement l'autre côté, il y a aussi fine qu'elle soit, une tranche aura quand même toujours deux côtés, vous voyez. Alors, il faut avoir les deux côtés. Donc, l'attention, je me dis, oh là là, c'est qu'est-ce que cette tension? Si seulement j'avais pu naître sans cette tension, cette tension qui m'a poussé vers Jésus-Christ, vous voyez. Alors, elle a été une source de bénédiction pour moi. Et donc, comme Paul l'a dit, quand il avait eu une tension ou quelque chose d'autre, bien qu'il ait consulté le Seigneur trois fois pour qu'il lui enlève ça, et le Seigneur a dit, Paul, ma grâce te suffit. Il a dit, alors je me glorifierai de mes infirmités. Quand je suis faible, c'est là que je suis fort, voyez. Tant que c'est selon sa volonté, c'est bien. Or, je l'ai consulté une fois quand ça m'a dérangé tellement que ça me faisait peur. Il m'a dit, il y a environ 8 ou 10 ans, il a dit, ça ne te fera plus jamais peur. Et cela ne m'a plus jamais fait peur. Non, monsieur, je ne me fais pas de soucis pour ça. Je la ressens. Je suis très reconnaissant pour ça. Bon, il aurait pu dire, ça n'existera plus. Tout aussi bien, tu n'aurais pas plus peur. Donc, c'est sa volonté que cela arrive. Alors, je l'accepte de bon gré. Je dis, merci, Seigneur. Je vais marcher comme ça. Maintenant, inclinons la tête un instant pour prier. Y a-t-il une requête spéciale de prière? Je vois qu'il y a des mouchoirs posés ici. Levez la main, Seigneur. Bénis chacun de tes enfants. Notre Père céleste, nous nous approchons maintenant de ton grand trône majestueux de la grâce parce qu'il nous a été demandé de venir. Nous venons sur l'invitation de Jésus-Christ. Nous venons avec tous nos soucis et nous les déchargeons sur lui parce qu'il prend soin de nous. Quel grand réconfort de savoir qu'il prend soin de nous. Le grand Dieu du ciel, le Créateur, prend soin de nous, sa création. Cela nous réjouit tellement, Seigneur. Quel réconfort en ce temps où nous vivons, alors que rien ne semble pouvoir nous réconforter si ce n'est ta parole. C'est ça notre consolation, ta promesse. Et dans ta promesse, tu nous as dit de faire connaître nos requêtes. Et si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Et toutes ces grandes promesses, demandez et vous recevrez. Dites à cette montagne, ôte-toi de là. Ne doutez pas et elle sera ôtée. Toutes ces promesses, et nous pouvons puiser en elles ce que nous demandons. Les mains se sont levées. Ces gens ont besoin de quelque chose, Seigneur. Tu connais leurs besoins. Pourvois-y, Père. Je dépose ma prière devant toi avec les leurs, ma main levée avec les leurs. Il y a ici, sur cette chair, des mouchoirs qui ont été posés ici. Oh, ces gens, comme ils ont la foi, une foi vaillante, Seigneur. On dirait que c'est quelque chose en quoi tu m'as béni de pouvoir prier pour les malades. Ou que ce soit n'importe où. Où que j'aille, il y a quelque chose en rapport avec la prière pour les malades. Oh Dieu, accorde ton secours maintenant. Je te prie avec sincérité d'exaucer les requêtes représentées par les mouchoirs qui ont été placés ici. Ces gens qui ont demandé ces choses, que ta miséricorde soit sur eux. Seigneur, nous avons appris que ça, X, à la, une femme qui est venue de quelque part, qui a fait tout le trajet jusqu'ici en avion, afin de recevoir de la prière. Elle est atteinte de cancer. Elle demande si elle pourrait l'amener ici. Je te prie, ô Dieu, d'épargner la vie de cette personne. Accorde-le, mon jeune neveu Mickey, étendu là-bas, malade, qui vomissait avec une forte fièvre. J'arrive de là-bas, Seigneur. Je crois que nous avons eu la prière de la foi, que tu as stoppé cette fièvre, et je t'en suis reconnaissant. J'ai senti la fièvre quitter ce garçon avant que je sorte de la chambre. Maintenant, Seigneur, et merci pour toutes ces choses. Maintenant, c'est à moi qu'il incombe de parler de ta parole. Donne-nous ta parole, Seigneur. Ta parole est la vérité. Bénis nos âmes et donne-nous la grâce dont nous avons besoin. Fais que nous la puisions dans les promesses de Dieu ce soir, dans la parole, pour être soutenus pendant le reste de cette semaine. Accorde-le, bénis notre pasteur, cette âme vaillante, sa femme, ses enfants, les diacres, les administrateurs et toutes les personnes qui entreront dans ce bâtiment ou en sortiront. Accorde-le, Père, c'est au nom de Jésus-Christ que nous demandons ces bénédictions. Amen. Maintenant, je veux lire à deux endroits dans les écrits du Seigneur. Je veux lire premièrement dans le livre des psaumes, le psaume 86, et ensuite je veux lire dans Matthieu au chapitre 16, de 1 à 3. Je veux lire une partie de ce psaume, pas tout, mais jusqu'au verset 11 environ, ce qui fait un peu plus de la moitié. Et je veux annoncer ceci, si j'intitule mon sujet avant de prêcher dessus, le temps de l'union et son signe. Le signe du temps de l'union. Ça semble un peu compliqué, l'union, voyez, le temps de l'union, où on en est là maintenant, et le signe de ce temps de l'union. Dans le psaume, une prière de David, le psaume 86. Éternel, incline ton oreille, réponds-moi, car je suis affligé et pauvre. Garde mon âme, car je suis un de tes saints. Toi, mon Dieu, sauve ton serviteur qui se confie en toi. Use de grâce envers moi, Seigneur, car je crie à toi tout le jour. Réjouis l'âme de ton serviteur, car à toi, Seigneur, j'élève mon âme. Car toi, Seigneur, tu es bon, prompt à pardonner et grand en bonté envers tous ceux qui crient vers toi. Éternel, prête l'oreille à ma prière. Sois attentif à la voix de mes supplications. Au jour de ma détresse, je crierai vers toi, car tu me répondras. Oh, c'est beau, n'est-ce pas? Tu me répondras. Seigneur, nul entre les dieux n'est comme toi. Il n'y a point d'œuvre comme la tienne. Toutes les nations que tu as faites viendront et se prosterneront devant toi, Seigneur. Tu glorifieras ton nom. Car tu es grand et tu fais des choses merveilleuses. Tu es Dieu, toi seul. Écoutez maintenant. Éternel, enseigne-moi ton chemin. Je marcherai dans ta vérité. Unis mon cœur à la crainte de ton nom. L'unité, voyez? Unis mon cœur à la crainte de ton nom. Je parle maintenant d'union et du signe du temps. Maintenant, au chapitre 16 de Matthieu, les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus pour l'éprouver, lui, demandant de leur faire voir un signe venant du ciel. Et Jésus leur répondit, « Le soir, vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge. Et le matin, il fera sombre, de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. » Hypocrite, vous savez discerner l'aspect du ciel et vous ne pouvez discerner les signes du temps. Que le Seigneur ajoute ses bienveillantes bénédictions à la lecture de cette parole. Maintenant, nous parlons de cette union, de ce temps de l'union, le signe du temps de l'union. Voyez, Jésus était ici, dans cette dernière lecture de l'Écriture, il reprochait au clergé de n'avoir pas su discerner le temps ou le signe du temps. Or, cela a toujours été quelque chose d'important pour les gens, voyez, de savoir discerner le signe du temps où l'on vit. En effet, Dieu l'écrit clairement, de sorte que cela n'échappe à personne. Bon, habituellement, je retourne en arrière, relever des exemples d'autres ministres, d'autres serviteurs du Seigneur, du temps de la Bible, par exemple le signe au temps de Noé, le signe du temps de Daniel, et ainsi de suite, les différents signes. Mais ce soir, je veux laisser ça de côté pour gagner du temps, pour pouvoir... Mais cela a toujours été la manière de faire de Dieu, de leur donner un signe naturel du temps, afin que tous sachent en quel temps ils étaient. Et ces pharisiens auraient dû reconnaître leur temps. Ils auraient dû savoir en quel temps ils étaient. D'ailleurs, il a dit, si vous m'aviez connu, vous auriez connu mon jour. Vous voyez? C'est vraiment quelque chose de très important pour nous, d'avoir l'intelligence de ces choses. Vous voyez, sans intelligence, voilà ce qu'il disait toujours au sujet des prophètes. Il disait, il avait l'intelligence par des visions du Seigneur. La parole du Seigneur fut adressée aux prophètes d'autrefois. Vous voyez, il avait l'intelligence des choses par la parole du Seigneur au moyen des prophètes. Et alors, les prophètes donnaient un signe. Par exemple, un homme est resté couché un certain temps sur le côté. Ensuite, il s'est retourné et est resté couché sur l'autre côté. Un homme a dû ôter ses vêtements et oh, ils ont fait beaucoup de choses pour montrer le signe sous lequel ils vivaient. Et maintenant, nous savons que le Dieu qui a fait les cieux et la terre et qui a élaboré son œuvre de manière à décrire ses temps par des signes, ce même Dieu vit aujourd'hui. Donc, certainement que nous, que quelque chose, en voyant le temps dans lequel nous vivons, il doit certainement y avoir quelque chose qui échappe à quelqu'un, quelque part. Voyez? Parce que Dieu ne laisserait jamais ces choses arriver sans nous avoir donné un signe clair pour que nous puissions comprendre. Alors, voici ce qu'il y a aujourd'hui, c'est que le clergé, nous ne percevons pas la chose correctement. C'est comme c'était à cette époque-là, ils ne croyaient pas que le temps était venu. Et ils croyaient qu'ils menaient une vie assez paisible à cette époque-là, donc ils n'attendaient pas de Messie. Et Jésus a dit que sa venue, ce serait comme un voleur dans la nuit, au moment où les gens ne seraient pas conscients de sa venue. Mais quelques-unes des vierges qui sont allées à sa rencontre, la moitié d'entre elles avaient de l'huile dans leur lampe et étaient prêtes, elles guettaient ce signe. Et c'est à elles que je m'adresse ce soir, vous voyez, à celles qui attendent le signe maintenant, le signe de sa venue. Ces signes donnés par le Seigneur sont donnés uniquement aux croyants. Les incroyants ne les voient jamais. Ils leur passent complètement au-dessus de la tête et ils ne les voient pas. Et maintenant, aussi sûrement qu'un ange de Dieu pourrait se tenir